VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorcil et Morgan Guiriec, bonsoir. Bienvenue à l'édition du vendredi 9 octobre 2015. Au sommaire ce soir.
Violence au Burundi, au moins 9 morts ce vendredi à Bujumbura.
Pascal Chimirimana, le gendre du défenseur des droits de l'homme Pierre Claver Mbonimpa, a été assassiné dans sa voiture devant sa maison.
Élection en Côte d'Ivoire, la campagne a débuté aujourd'hui alors qu'en Guinée, on semble avancer vers un scrutin serré dimanche sur fond de tension.
Retour ce soir sur la démission annoncée hier au patron de l'autorité nationale des élections en RCA.
La démission du président de l'ANE est une situation assez délicate qu'il faut prendre avec beaucoup de froideur d'esprit.
Réaction à suivre d'un ancien diplomate centrafricain. Migration en Europe.
Beaucoup de mineurs ici viennent non accompagnés et c'est ce qui inquiète les associations qui essayent de les protéger d'éventuels trafiquants lorsqu'ils arrivent ici.
On écoutera notre envoyé spécial Nicolas Pinault.
En Syrie, nette intensification de la campagne militaire de la Russie contre les djihadistes et rebelles anti-Assad.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Au Burundi, toujours en proie à la violence, on compte au moins 9 morts à Bujumbura ce vendredi. Parmi eux, le gendre du célèbre défenseur burundais des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa, Pascal Chimirimana, époux de Zigène, fille aînée de M. Mbonimpa, a été abattu dans son véhicule devant son domicile. Par ailleurs, 6 bandits figurent parmi les gens tués ce vendredi. Ils voulaient braquer la banque de crédit de Bouyenzi. On fait le point avec Christophe Kourounziza.
6 personnes ont été tuées en même temps et une autre blessée tout près du rond-point Pagidas à côté du monument de l'indépendance. La police indique qu'elle a tiré sur une voiture double cabine des bandits qui venait de dévaliser la banque de crédit de Bujumbura située dans le quartier de Bouyenzi. Un des gardiens de cette banque avait été tué par ces personnes armées. Une autre personne a été blessée. Un peu plus tôt dans la matinée vers 9h GMT, Pascal Chimirimana, le gendre du défenseur des droits de l'homme Pierre Claver Mbonimpa, a été assassiné dans sa voiture devant sa maison, sise au quartier 9. En quartier non contestataire, lorsque des gens armés ont tiré sur lui. Il est mort sur le champ. Il a été abattu à côté de la maison appartenant au porte-parole du parti présidentiel CNDD-FDD, Gelaz Ndabirabe. Une des filles de ce grand défenseur des droits de l'homme avait échappé à la mort il y a quelques temps et aujourd'hui réfugiée à l'étranger. La police affirme qu'elle a déjà commencé l'enquête. Un autre corps sans vie a été retrouvé ce matin dans les quartiers de Ngagara, au nord de Bujumbura. Depuis plusieurs mois, l'on insiste à une recrudescence de la violence dans certaines localités de la capitale et de l'intérieur du pays. Christophe Nkonziza, Bujumbura.
Une gendarmerie attaquée dans l'ouest du Burkina Faso. 3 gendarmes ont péri dans l'assaut lancé par une cinquantaine d'hommes armés à Samorogouan, près de la frontière malienne. L'AFP, citant des sources sécuritaires, indique qu'un gendarme a été enlevé et qu'un civil a été égorgé. Un assaillant a également été tué d'après le gouvernement burkinabé. Des djihadistes sont soupçonnés.
Présidentielle en Côte d'Ivoire, lancement de la campagne officielle. Elle devrait durer 2 semaines. Ce scrutin est jugé crucial pour la stabilité du pays après la crise post-électorale de 2010-2011. 10 candidats sont en lice, dont le président sortant Alassane Ouattara, qui espère l'emporter dès le premier tour. Les explications de Tatiana Mosso.
Alassane Ouattara a choisi de lancer officiellement sa campagne à Yamoussoukro. Tout un symbole alors qu'il s'affiche aux côtés d'Henri Conan Bédié, autrefois adversaire politique. Le patron du PDCI est désormais devenu le meilleur allié du président sortant. Il a permis au chef de l'État d'être à la tête d'une importante coalition de partis. Depuis des mois, Alassane Ouattara met en avant son bilan économique, une croissance de plus de 8% depuis 4 ans, de grands travaux amorcés, le troisième pont d'Abidjan est l'un des symboles de ce premier mandat. Du côté de l'opposition, la coalition nationale pour le changement, portée par Charles Konan Bani, regroupe plusieurs candidats à la présidentielle. Elle ne cesse de dénoncer les conditions d'organisation de ce scrutin. Une élection équitable n'est pas possible, selon elle. Ses leaders pointent notamment du doigt la composition de la commission électorale, favorable selon elle au président sortant. Pascal Afinguessan, pour le FPI, a déjà commencé ses meetings dans les régions pour rallier autour de lui les sympathisants socialistes indécis, au cœur d'un parti divisé depuis des mois.
Et quelques 6 millions de Guinéens sont appelés aux urnes dimanche pour désigner leur président, Nathalie Barge.
Le ton est monté ces derniers jours autour du report du scrutin exigé par l'opposition et rejeté par le président guinéen. Les violences jeudi entre partisans du chef de file de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, et du président sortant, Alpha Condé, ont fait au moins 2 morts et des dégâts importants à Conakry. De retour dans la capitale après presque 3 semaines de campagne, M. Diallo a de nouveau exigé un report pour permettre à des experts électoraux désignés par la communauté internationale de corriger les listes électorales qu'il estime truquées en faveur du pouvoir. Le président Condé s'est fixé l'objectif ambitieux de se faire réélire dès le premier tour. L'opposition l'accuse de vouloir y parvenir à l'aide de fraudes à grande échelle, ce qui est démenti par le camp présidentiel. On ne participera pas à une mascarade électorale, sinon on n'acceptera pas les résultats et je mobiliserai avec tous les autres candidats la population pour refuser, a déclaré M. Diallo, candidat malheureux au second tour face à Alpha Condé en 2010, qu'il avait pourtant largement devancé au premier tour.
Ouverture aujourd'hui de la campagne pour le référendum du 25 octobre en République du Congo. Les Congolais devront se prononcer sur un projet de constitution supprimant les 2 verrous qui limitent à 70 ans l'âge des candidats et imposent au chef de l'État un maximum de 2 mandats. Éric Menirakiza.
La campagne a démarré timidement, mais le pouvoir a prévu une démonstration de force demain samedi dans le centre de Brazzaville. Des mouvements de jeunesse, de la majorité, sont en train de mobiliser la population pour réussir le pari d'un meeting annoncé comme grandiose. Dans cette manifestation, le régime de Sassou Nguesso veut envoyer un message fort aux opposants du référendum. Et le lieu choisi est symbolique, c'est l'endroit même où l'opposition avait réussi le 27 septembre, son plus grand rassemblement depuis 1997, au cri de non au référendum, ça suffit. Où ça se dégage. L'opposition promet de contrer ce projet de nouvelle constitution jusqu'au bout. Elle accuse Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans de vouloir perpétrer un coup d'État constitutionnel pour cumuler des mandats illimités.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Migration vers l'Europe, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son aval à l'Union européenne pour raisonner en haute mer des navires de migrants venant de Libye. La résolution a été adoptée par 14 voix pour et une abstention, celle du Venezuela. Les Européens ont étendu mercredi leur opération militaire navale pour lutter contre les passeurs dans les eaux internationales au large de la Libye. 6 bâtiments de guerre européens, italiens, français, allemands, britanniques et espagnols peuvent désormais arraisonner par la force, inspecter, saisir et détruire les navires utilisés par les trafiquants.
Les États-Unis vont faire évoluer leur programme de soutien au groupe syrien anti-État islamique aux résultats désastreux en se concentrant désormais plus sur la fourniture d'équipements et d'armes, selon le Pentagone. Entre-temps, l'armée russe a affirmé ce vendredi avoir bombardé 60 cibles terroristes en Syrie au cours des dernières 24 heures. Une nette augmentation par rapport aux précédentes sorties. Les avions russes ont attaqué plusieurs positions rebelles dans 5 provinces, y compris Alep, dont le groupe État islamique s'est rapproché ce vendredi, après avoir chassé d'autres groupes rebelles de plusieurs position, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
4 morts et plus d'une dizaine de blessés, bilan d'une attaque lancée aujourd'hui par l'armée israélienne à la frontière entre Israël et Gaza. Selon l'armée, environ 200 Palestiniens ont marché jusqu'à la frontière lors d'une manifestation. Ils ont jeté des pierres et pneus enflammés en direction des soldats en poste du côté israélien. Le chef du Hamas à Gaza, Ismaël Haniyeh, a appelé les Palestiniens ce vendredi à intensifier leur lutte contre l'État hébreu, qualifiant la récente flambée de violence à Jérusalem et en Cisjordanie d'intifada. Ces violences ont déjà fait 9 morts, dont 4 Israéliens.
Le prix Nobel de la paix 2015 a été décerné au dialogue national tunisien pour sa contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste en Tunisie, dans le sillage de la révolution du jasmin de l'année 2011. Michel Joseph nous en dit plus.
Le comité du prix Nobel à Oslo en Norvège a annoncé le prix vendredi, notant qu'il s'adresse aux 4 organisations combinées en Tunisie pour leur travail d'établir un processus politique pacifique après les efforts de démocratisation qui ont suivi le printemps arabe, miné par des assassinats politiques et des troubles sociaux. Le comité Nobel a cité le quartet pour la stabilisation du pays à un moment où il était au bord de la guerre civile. Les groupes qui composent le quartet, parrainant le dialogue national tunisien sont l'Union générale des travailleurs tunisiens, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats de Tunisie.
Les grandes puissances du G20 ont donné aujourd'hui à Lima leur feu vert à un plan d'action pour mettre au pas les multinationales fuyant l'impôt et récupérer les recettes fiscales cruciales dans ces temps de croissance fragile. Comme le rappelle l'AFP, le nouveau mécanisme doit recevoir en novembre, lors du sommet du G20 d'Antalya, l'onction des chefs d'État et de gouvernement. Les États concernés subissent une perte annuelle d'environ 240 milliards de dollars de recettes fiscales.
Le président Barack Obama a entamé ce matin une tournée de 4 jours sur la côte ouest des États-Unis par une rencontre avec les familles des victimes de la fusillade de Rosenberg dans l'Oregon. Un homme de 26 ans avait alors tué 8 étudiants et un enseignant avant de se suicider. Alors que M. Obama commençait sa visite, la presse a rapporté un nouvel incident, cette fois à Flagstaff, dans l'Arizona, où une dispute entre étudiants a fait 1 mort et 3 blessés par balle sur un campus universitaire.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Anastasie Tutiesh.
Un rapport de l'association GSMA publié cette semaine fait le point sur l'état de la téléphonie africaine. Et il apparaît que l'industrie du mobile a contribué à 5,7% du PIB total de la région, que le nombre d'utilisateurs a augmenté de 13% par an depuis 2010, soit 2 fois plus vite que la moyenne, mais également que cette hausse en Afrique subsaharienne devrait ralentir ces 5 prochaines années autour de 6%, une croissance tributaire des accords entre les gouvernements et l'industrie de la téléphonie. Le Sud-Soudan produit du café depuis fort longtemps et son industrie, destinée au marché local, a été détruite par les guerres d'indépendance. Un projet mené par l'acteur américain George Clooney, une association américaine et la firme Nestlé va permettre à de petits producteurs sud-soudanais d'exporter pour la première fois leur café. 2,6 millions de dollars, soit 2,3 millions d'euros, ont été engagés dans le projet et 300 petits propriétaires agricoles ont rejoint des coopératives. L'objectif est d'attirer 15 000 agriculteurs sur une période de 10 ans. La Banque africaine de développement, la BAD, va désormais allouer 5 milliards de dollars par an d'ici à 2020 à la lutte contre le réchauffement climatique, soit 3 fois le montant actuel. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son président Akinwumi Adesina dans un communiqué. 50% iront à la réduction de gaz à effet de serre, 50% financeront l'adaptation au changement climatique sur le continent.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
Actualité sportive, Eric Manirakiza en studio, bonsoir.
Bonsoir Gabi.
Football mondial, le destin de Michel Platini, pourrait-on dire contrarié ?
Oui, les chances du président de l'UEFA pour succéder à Joseph Blatter s'amenuisent. Le temps presse maintenant pour Michel Platini, suspendu 90 jours pour sauver sa candidature à la présidentielle de FIFA. Et le dépôt officiel des candidatures se clôt le 26 octobre. Mais le triple Ballon d'Or va déposer son appel auprès de la Chambre de recours de l'instance mondiale du foot, dans l'espoir, bien sûr, d'une validation de sa candidature.
Problème complexe et douloureux, toujours en parlant de Platini.
Ah oui, la suspension de Platini a évidemment provoqué un choc au sein de l'Union européenne du foot. Cette suspension temporaire de 90 jours rend le problème de la crise des instances encore plus complexe et douloureux, a commenté la Fédération néerlandaise de foot qui a soutenu sa candidature pour succéder à Blatter.
Et qu'en est-il de ce credo dans le foot anglais, pied au plancher, émotion et patience?
Ah oui, ça ne manque pas d'imagination. C'est un coup de maître de l'entraîneur de Liverpool. Jürgen Klopp a dévoilé aujourd'hui vendredi son projet lors de sa présentation « Jouer, pied au plancher, donner des émotions et être patient ». Ceci dit qu'il faut un plan pour quand vous avez le ballon et quand vous ne l'avez pas.
Quelques secondes seulement en Formule 1.
Oui, c'est le Brésilien Felipe Massa qui a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du Grand Prix de Russie.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, la RCA.
En Centrafrique, Dieudonné Kumbayaya, le président de l'ANE, l'autorité nationale des élections, a démissionné. L'information a été confirmée à VOA Afrique par l'intéressé lui-même qui a évoqué les pressions politiques liées au chronogramme des élections censées mettre fin à la transition en cours. Cette démission qui fait suite à celle du vice-président de cette institution, Godefroy Moka Manédé, intervient avant la rencontre de la communauté internationale avec les acteurs de la classe politique centrafricaine en vue de fixer un nouveau calendrier électoral. Au micro de Félix Yepassi Zembro, l'ancien ambassadeur de la RCA aux Nations Unies, Charles Armen Douban, il donne son point de vue sur la démission de M. Kumbayaya.
La démission du président de l'ANE est une situation assez délicate qu'il faut prendre avec beaucoup de froideur d'esprit. Mais ne perdons pas de vue que nous sommes en train de sortir d'une crise qui a secoué le pays avec des conséquences aussi bien au niveau sécuritaire que sur le plan de l'avancée du processus. Et donc, avec du recul, cette démission peut s'entendre comme une crise à la crise, mais relativisant. Étant entendu que l'ANE est une institution qui travaille en équipe et de manière collégiale, ne nous offusquons pas trop, laissons les choses se décanter et voir ce qui peut être fait, puisque, je le redis encore, c'est une institution qui travaille de manière collégiale et les dispositions, sans doute, au regard de ce qui attend la justice centrafricaine, doivent être prises très rapidement pour essayer de contenir les dérives ou l'absence ou une déviation de la trajectoire de la transition.
Cette démission n'aura-t-elle pas des conséquences quant au processus électoral en cours?
Oui, ben vous savez, je dis que l'ANE est une institution qui travaille avec des hommes et des femmes, donc c'est une équipe. Et à partir du moment où, même si on déplore, tout en le respectant, la démission du vice-président suivie de celle du président, il est clair que nous ne pouvons pas nous arrêter à cela et que le processus doit aller jusqu'à son terme parce qu'il nous faut sortir de la transition par le biais d'élections organisées dans les conditions requises.
À votre avis, des élections avant fin décembre 2015, comme le préconise la communauté internationale, est-ce tenable?
Le problème n'est pas la tenue ou non des élections. Nous devons aller aux élections. Maintenant, quelles sont les conditions pour aller à ces élections? Il faut un minimum de sécurité, ce qui est réclamé par l'ensemble des Centrafricains. Et il faudrait que le processus, justement, soit bien respecté. Aujourd'hui, le taux d'enrôlement est assez élevé. Sur 2 millions, semble-t-il que nous avons 1,8 million d'inscrits. Sur le gap financier, un effort substantiel de la communauté internationale a été fait. Donc, ce qui est important aujourd'hui, je le dis clairement, il faudrait que les différentes parties à ce processus s'asseyent, c'est-à-dire autorité de la transition, ANE, communauté internationale et classe politique s'asseyent pour déterminer un calendrier qui tienne la route et pour permettre justement d'aller à ces élections.
Charles Armel Douban, ancien ambassadeur de la RCA auprès des Nations Unies.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Les Burkinabés n'ont pas marchandé leur présence ce vendredi à la place de la Révolution à Ouagadougou pour rendre un vibrant hommage aux martyrs du putsch manqué du général Gilbert Diendéré. L'émotion était à son comble avec un seul mot, justice, pour les martyrs tombés sous les balles du RSP. Zoumana Wonogo était sur place.
À la cérémonie d'hommage aux victimes de l'insurrection populaire qui a mis fin au pouvoir de Blaise Compaoré, le président de l'Union des parents des martyrs avait lancé le slogan « Plus jamais ça ». Malheureusement, moins d'une année après, revoilà le Burkina qui pleure ses fils tombés sous les balles assassines. Suivant les explications du président de l'Union des parents des martyrs de l'insurrection. Il s'appelle PK Victor.
Mais aujourd'hui, je peux dire qu'avec le soutien de l'armée burkinabé, plus jamais ça maintenant va avoir son sens. Parce que si le RSP a été démantelé, Gilbert Diendéré est présentement en prison, quelque chose de ce genre ne va plus arriver dans notre pays.
Cette récurrence funeste et macabre commence à vraiment lasser les Burkinabés. Suivant des avis.
Parce qu'on en est marre maintenant de venir à chaque fois venir à la place des nations, venir inhumer nos petits frères, nos petits frères, nos grands frères, nos petites soeurs, tout ça, c'est, on en est marre.
En tant que femme, perdre un enfant, c'est pas facile. Donc vraiment, ce que je veux et je demande au peuple burkinabé, au gouvernement burkinabé, que vraiment la justice soit rendue à nos martyrs et qu'ils reposent en paix.
En égrenant le chapelet des noms des victimes, Patrice Bazier, le représentant des parents des victimes du Push, a aussi interpellé le gouvernement sur leur souhait de justice pour les martyrs.
Aux martyrs du coup d'État manqué du 16 septembre, reposez désormais en paix tout en espérant que justice vous sera rendue.
Face à cette interpellation directe, le gouvernement, par la voix du ministre de l'administration territoriale, a donné sa réponse, suivant le ministre Youssouf Ouattara.
Aux personnes blessées lors des tristes événements constitutifs du coup d'État du 16 septembre 2015, le gouvernement souhaite un prompt rétablissement. Les responsables du Push et leurs complices soient traduits devant le tribunal et que chacun d'eux répondre de ses actes.
Le président de la transition a décrété en ce jour un deuil national de 72 heures en hommage aux martyrs du Push. Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Et nous partons maintenant en Europe. L'ONU a donné son aval à l'Union européenne pour arraisonner des navires de migrants venant de Libye. 6 bâtiments de guerre européens, italiens, français, allemands, britanniques et espagnols, peuvent désormais intercepter par la force, inspecter, saisir et détruire les navires utilisés par les trafiquants. Il faut dire que des centaines de migrants arrivent chaque jour en Europe, notamment en Italie. Et sur place, Nicolas nous explique qu'on compte bon nombre de mineurs non accompagnés.
Oui, effectivement, hein, Morgane, c'est un des phénomènes qui est croissant. Beaucoup de jeunes mineurs, notamment des garçons évidemment, qui quittent leur pays. J'ai notamment pu m'entretenir avec un Gambien de 16 ans lorsque j'étais à Rome et qui a tout quitté depuis 9 mois pour pouvoir tenter l'aventure européenne. Et en arrivant évidemment en Europe, il a enfin pu joindre sa mère. Et c'est vrai que beaucoup de mineurs ici viennent non accompagnés et c'est ce qui inquiète les associations qui essayent de les protéger d'éventuels trafiquants lorsqu'ils arrivent ici, car les lois européennes protègent généralement assez bien les mineurs. Ils bénéficient plutôt d'une meilleure protection que les migrants adultes.
Mais alors, sait-on comment est-ce qu'ils se retrouvent à faire la traversée tout seuls ?
Alors, la plupart du temps, puisque ce sont des jeunes hommes, ils tentent l'aventure eux-mêmes. Il y a toujours cette volonté pour certains d'échapper à des persécutions politiques. On peut penser aux Érythréens et notamment aux services militaires obligatoires. Ou alors, c'est tout simplement pour des raisons économiques. J'ai rencontré notamment des jeunes Sénégalais qui veulent un avenir meilleur et des possibilités économiques. Pour les jeunes femmes, les jeunes filles, notamment d'origine nigérienne, il y a de fortes suspicions de trafic d'êtres humains, notamment pour de la prostitution en Europe. Et pour ces jeunes filles, quelqu'un de l'Organisation des Migrations Internationales m'expliquait que beaucoup n'ont pas payé le voyage et beaucoup vont devoir rembourser une espèce de dette qui sera 4 à 5 fois supérieure par rapport au montant du voyage. Donc là encore, les autorités et les associations essayent d'être vigilantes pour pouvoir mieux protéger ces mineurs non accompagnés.
Comment sont-ils pris en charge ?
Alors la plupart d'entre eux, évidemment, comme les autres, sont d'abord enregistrés auprès des autorités italiennes ou des autorités dans lesquelles, évidemment, ils arrivent. Après, ils vont souvent être transférés dans des centres appropriés. Des associations s'occupent d'eux et normalement, ont jusqu'à leur majorité, normalement, en tout cas, leur parcours en Europe va être un tout petit peu plus facile. Je dis vraiment un tout petit peu plus facile. Hein. Tout est dans la nuance, car évidemment, venir ici tout seul face à soi-même et face à une langue qu'on ne connaît pas souvent, ce n'est pas facile. Mais techniquement, jusqu'à leur majorité, ils seront un peu mieux protégés que les autres. Le grand problème se posera à leur majorité, Morgane.
Nicolas Pinault, notre envoyé spécial en Italie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La guerre continue en Syrie pour la 5e année consécutive, sans issue à l'horizon. Les tensions augmentent avec l'entrée en guerre de la Russie, qui intensifie ses raids dans ce pays. Quel rôle pour l'Occident dans la quête d'une solution à la crise syrienne ? Isha Sarai a recueilli les explications de Laura Breata, chercheuse pour le centre d'études Europols à Bruxelles.
La guerre en Syrie est ressurgie dans les yeux de l'Union européenne ou sur le tableau de l'Union européenne seulement avec les réfugiés. Après, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire? On n'a pas de solution, donc c'est mieux de ne pas s'impliquer. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que l'Union européenne n'a pas d'histoire d'implication militaire. Donc, les pays de l'Europe voudraient que ce soit toujours les États-Unis qui soient les premiers qui entrent en Syrie.
Qu'est-ce que vous pensez va changer maintenant avec les actions de la Russie?
Je pense que les actions de la Russie ne font que ramener encore plus de confusion dans toute cette histoire. Parce que quand c'est la question des États islamiques ou Bachar al-Assad et les autres pays de l'Occident, c'était un peu plus simple et l'Union européenne ou les Européens voyaient un épisode qui ressemblait un petit peu aux autres guerres de l'Orient. Maintenant, avec la Russie, il y a plusieurs questions. Par exemple, l'Allemagne, de nouveau, essayer de garder de bonnes relations avec la Russie. On sait, même si Angela Merkel elle n'est pas aussi copine avec les Russes comme c'était le cas avec Gerhard Schröder. De l'autre côté, de nouveau, le fait que la Russie s'implique en Syrie, il y a un soulagement, disons, pour l'Europe de l'Est, parce qu'il voit en même temps l'intérêt de la Russie se déplacer vers la Syrie et laisser de côté l'Ukraine. Et c'est pour ça que l'Europe de l'Est est de nouvelles différences de vision entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest sur cette question, parce que l'Europe de l'Est aimerait bien peut-être laisser la Russie s'impliquer en Syrie pour que la Russie ne soit plus une menace pour l'Europe de l'Est.
Ça fait 5 ans maintenant que la guerre persiste et on ne voit pas la fin. Comment voyez-vous l'avenir de la Syrie?
La nouvelle donnée, le fait que la Russie s'implique en Syrie. Ici, à Bruxelles, on le voit un petit peu comme une exagération de la part de la Russie. Et on pense que ça va rallonger la guerre, mais en même temps que c'est peut-être une manière d'impliquer le régime de Vladimir dans quelque chose de plus sérieux et de l'affaiblir. Donc ça, ce serait peut-être le nouveau volet intéressant pour les prochaines années, ou voir si Vladimir Poutine arrive à gérer de son entrée en Syrie.
Au micro d'Isha Sarai, Laura Breata, chercheuse pour le centre d'études Europols à Bruxelles.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive, participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Zouk Machine, Maldon, Island Music, un avant-goût de l'émission de Roger, le RM Show un peu plus tard.
C'est la fin de cette édition, Morgane.
Oui, Gabi, Chérubin, Dorsil et Morgane Guiriec à la présentation. Joselle Morissin à la production.
Ainsi va Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM. Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.